Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio.
La beauté d'une voix, c'est qu'elle remplit seule une salle immense.
Restez une minute, je viens vous parler.
Je vous écoute.
Bientôt, l'heure de la révolution nationale sonnera.
Et vive la reine !
Vive la reine !
Salut, c'est Lucie. Je ne sais pas si vous avez entendu l'émission d'hier, puisqu'on a eu des soucis de diffusion. Bref, me voilà de retour pour animer l'émission d'information locale. Et au sommaire aujourd'hui, l'info du jour, pas d'édition du Stunfest en 2024. Interview avec Mathieu Theurier, lui au transport à la métropole pour comprendre les zones à faibles émissions. Il y aura de la musique, dont une nouveauté, un reportage pour prendre des nouvelles de Chris, poète américain qui vit sous le pont Laennec depuis 2020. Et puis, recommandation, une conférence pour imaginer des journées de travail de 3 heures. Bienvenue dans l'arène. Et on débute cette émission comme toujours avec l'info du jour, choisie pour vous dans tout ce qui se passe d'intéressant dans la région rennaise. Aujourd'hui, une mauvaise nouvelle, le festival Stunfest, festival consacré aux jeux vidéo, ne connaîtra pas d'édition en 2024. C'est l'association 3 Hit Combo, organisatrice de l'événement, qui l'a annoncé lundi 11 décembre. Créé en 2005, le Stunfest, il a 18 éditions derrière lui. En 2023, plus de 10 000 visiteurs étaient venus aux Libertés du 19 au 21 mai. Mais des difficultés économiques obligent l'équipe à réduire son équipe salariée en passant de 7 à 2 salariés. En cause, l'inflation, le manque de sponsors et la baisse de fréquentation sur la dernière édition. L'impossibilité de recourir à du mécénat est aussi évoquée, car, je cite, « le jeu vidéo n'est pas une œuvre de l'art et de l'esprit », en tout cas dans les critères pour pouvoir recourir à du mécénat. 2024 sera donc une année de transition pour l'événement, moment pendant lequel l'association va redéfinir son projet pour atteindre un équilibre financier et espérer organiser une nouvelle édition en 2025. En attendant, les projets de médiation culturelle, ils seront maintenus et les rencontres professionnelles add-on qui sont intégrées au Stunfest depuis 2017, eh bien elles se tiendront de manière indépendante grâce au réseau des professionnels du jeu vidéo de l'Ouest, Atlanta Games. Pour soutenir l'association 3 Hit Combo, le mieux c'est toujours d'adhérer. Un temps de rencontre sera aussi organisé pour échanger sur tous ces sujets. Rendez-vous le 18 janvier 2024 à la maison du jeu vidéo de Rennes à partir de 18h30. Allez, après l'info du jour, c'est le moment d'une interview. Mathieu Theurier, bonjour.
Bonjour.
Je vous présente, vous êtes conseiller municipal et métropolitain pour Rennes et Rennes Métropole avec deux casquettes, les finances depuis peu à la ville de Rennes et puis les transports côté métropole. Ensemble aujourd'hui, on parle des zones à faible émission, les ZFE, un sujet sur lequel il y a une consultation qui est ouverte jusqu'à la fin du mois de janvier. Alors les ZFE, c'est un dispositif qui se conjugue au futur puisque la mise en œuvre elle est prévue pour début 2025 sur Rennes Métropole. Ça effraie une partie des citoyens puisque l'idée c'est la suivante, c'est de restreindre l'accès au centre-ville à certains véhicules. Et donc, ça fait peur. C'est important donc d'en parler.
Oui, bah après, il faut reprendre l'origine de ce que sont ces zones à faible émission. En fait, la réalité, c'est que malgré qu'on ait plutôt une qualité de l'air qui s'améliore en France et sur la métropole de Rennes, on a quand même, on estime, à plus de 40 000 morts prématurées chaque année du fait d'une qualité de l'air dégradée. À l'échelle d'un territoire comme le nôtre, c'est 150 morts prématurées. Donc c'est un impact sur la santé publique qui est fort. Et en fait, comme la France n'a pas mis en œuvre les mesures nécessaires justement pour accélérer l'amélioration de la qualité de l'air, elle a été condamnée par l'Union européenne. Et c'est pour ça en fait que le gouvernement français a décidé de mettre en place ces zones à faible émission. Donc c'est bien une décision du gouvernement français qui s'impose à des territoires comme les nôtres. Et donc nous, en tant qu'élus locaux, on essaye de mettre en place ce dispositif tout en faisant en sorte qu'il ait le moins d'impact possible pour les populations dans leur quotidien de déplacement.
Le pire des scénarios qui est annoncé dans la mise en place de ces zones à faible émission, c'est que les véhicules avec avec des vignettes critères, ces petites vignettes qu'on met sur son pare-brise, 3, 4 et 5, eh bien, soit interdit d'entrer dans les métropoles de plus de 150 000 habitants d'ici 2030. Vous l'avez dit, les ZFE, ce n'est pas donc une lubie des écologistes, mais bien un dispositif qui est rendu obligatoire par une réglementation nationale sur les grosses métropoles. L'enjeu de santé publique qui se cache derrière, vous l'avez aussi évoqué, c'est mieux à Rennes Métropole qu'ailleurs, mais j'ai le chiffre suivant, c'est qu'avec le renforcement des seuils réglementaires d'ici 2030, on se retrouverait quand même avec un air non conforme.
Oui, on est obligé d'agir. Alors la difficulté, c'est que la qualité de l'air, sa qualité n'est pas liée qu'aux mobilités. C'est sûr que les déplacements pèsent pour beaucoup dans ce qu'on appelle les émissions de particules fines, notamment, mais il y a un autre secteur qui joue beaucoup sur la qualité de l'air, qui est l'agriculture. Et moi, là où ça me pose un problème aujourd'hui, c'est qu'on va effectivement demander aux habitants de la métropole de faire un effort sur leur mobilité, et c'est normal qu'ils le fassent. Enfin, je pense que tout le monde est d'accord avec ça, mais que dans le même temps, sur le secteur agricole, on n'exige aucune norme supplémentaire aujourd'hui, et ça, moi, ça me pose un problème. Ceci dit, une fois que j'ai dit ça, on voit ailleurs en Europe que là où il y a des ZFE qui ont été mises en place, elles ont eu des résultats positifs sur la qualité de l'air, et je pense que c'est quand même ça qu'il faut retenir. C'est que tant qu'à faire qu'on soit obligé de mettre en place une ZFE, on va essayer de faire en sorte que c'est un dispositif qui est quand même un peu complexe et lourd à mettre en œuvre. On va essayer de faire en sorte qu'effectivement il ait un impact positif sur la qualité de l'air et qu'il ait un impact positif aussi sur le report des déplacements voiture vers notamment les transports en commun ou le vélo et la marche à pied. Donc c'est ça qu'on est en train d'essayer de travailler avec une ligne rouge pour nous qui est qu'on ne peut pas être sur un dispositif qui va trop vite et qui est trop excluant parce qu'on a évidemment des populations et souvent d'ailleurs c'est les plus modestes d'entre nous qui continuent à avoir besoin de leur voiture et c'est souvent des voitures qui n'ont pas des vignettes critères 3 ou 2. Donc c'est tout ce calibrage qu'on essaie de faire et c'est le sens de la consultation qu'on a lancée.
Sur le territoire français, il y a déjà une zone à faible émission qui a été lancée par exemple du côté de Marseille où les résultats doivent encore se faire attendre. Ça doit prendre du temps pour que la qualité de l'air s'améliore. Vous avez cité l'agriculture comme source polluante au-delà du transport. Il y a aussi, on peut citer le chauffage, l'industrie, le brûlage des déchets et qui impacte la qualité de l'air particulièrement près de la Rocade et des grands boulevards qui sont situés à côté. Si je vous reçois, c'est aussi parce que Rennes Métropole prend donc les devants sur ce sujet et choisit de lancer une consultation auprès des habitants sur ce sujet des ZFE. Ça se passe jusqu'au 31 janvier en ligne. Donc il y a de l'information sur le site fabriquecitoyenne.fr et puis à travers une exposition itinérante qui est par exemple de passage ce mardi 12 décembre à partir de 17h au Cadet de Bretagne à Rennes, le mercredi 13 cette fois à la Maison Bleue à partir de 13h, le 14 décembre à l'Ermitage, le 15 à Saint-Tré et le 16 à Mordel pour les dates qui restent avant la fin de l'année. Consultation ou plutôt information? Est-ce qu'il y a vraiment...
On est sur les deux niveaux. Il y a effectivement sur l'exposition itinérante et ce que vous trouvez sur le site de la Fabrique Citoyenne, il y a quand même un gros volet information parce qu'encore une fois, c'est un sujet qui est pas hyper simple à appréhender. Donc, on s'efforce de faire ce travail pédagogique, mais il y a bien aussi un volet consultation. Il y a des intangibles aujourd'hui qui nous sont imposés en fait par la loi et son règlement qui font qu'aujourd'hui, le zonage de cette future ZFE, il est défini, on l'a arrêté parce qu'en fait, on n'avait pas de marge de manœuvre vraiment pour le définir. Donc il va correspondre à l'intra-rocade, sachant qu'on a exclu l'hôpital de Pontchaillou, mais aussi tous les parcs relais du métro de cette ZFE. Donc c'est des équipements qui resteront accessibles quels que soient les véhicules que vous avez. Là où par contre on a de la marge de manœuvre, c'est sur quelles vignettes on exclut ensuite de cette ZFE et le calendrier d'exclusion jusqu'à 2030. Donc c'est sur ça effectivement qu'on appelle la population à se prononcer. Et après, ce sera à nous de prendre des décisions. Notre idée, hein, c'est d'avoir un calibrage d'exclusion des vignettes critères jusqu'à 2030 qui nous permettent d'accélérer un petit peu les choses pour améliorer la qualité de l'air, parce que c'est quand même bien ça l'objectif, tout en restant dans un équilibre qui fasse que, encore une fois, les gens n'aient pas à mettre leur voiture à la casse demain pour devoir en racheter une neuve, parce que ça va pas être possible.
En plus de l'exposition itinérante qui a été lancée depuis la fin du mois de novembre et l'information qui est visible en ligne, au printemps prochain, un panel citoyen sera constitué, panel de 25 à 30 habitants qui vont être tirés au sort, mais quand même volontaires pour participer à cette démarche-là. Ils se réuniront tout au long de l'année ?
Ouais, oh bah, l'idée c'est plutôt de les réunir sur 3 à 6 mois en fait, en mode jury citoyen. C'est des démarches qu'on a déjà eu à faire sur un certain nombre de projets, et en particulier sur les mobilités. L'idée c'est de les faire travailler sur les éléments qui rendraient selon eux acceptable la ZFE. Voilà. Et du coup, ça nous permet, nous, encore une fois, d'ajuster les calendriers, de regarder les éléments d'exclusion des vignettes et éventuellement les dispositifs d'accompagnement qui serait en face, sachant que on le dit déjà, il est évident qu'on n'aura jamais, nous, Rennes Métropole, les moyens de faire une prime à la casse pour les voitures. Donc ça, c'est des dispositifs qui sont exclus de fait. Ceci dit, on voit que il y a d'autres territoires qui ont dû mettre en place des ZFE en 2022, qui ont mis en place des surprimes de prime à la casse. Elles sont pas du tout sollicitées parce qu'en fait, quand vous devez passer de votre voiture thermique vers une électrique ou même une vignette critère 1, le gap financier il est tellement important que soit vous en avez les moyens et finalement vous le faites, soit vous ne l'avez pas et de toute façon vous n'avez pas cette capacité à faire et c'est pas la prime qui va beaucoup vous y aider. Par ailleurs, en plus, cette prime là on pourrait l'appliquer qu'aux habitants de la métropole, or c'est bien l'ensemble des habitants du bassin rennais, en tout cas ceux qui sont amenés à venir sur la métropole, qui seraient concernés. Donc on créerait une forme d'inéquité qui n'aurait pas beaucoup de sens. Donc ça, c'est des dispositifs qui sont exclus. Par contre, on a d'autres outils d'accompagnement sur les mobilités qui peuvent se déployer. Donc c'est tous ces éléments là qui vont faire partie du volet de consultation, même si je l'accorde, hein, on est dans un cadre qui est très réglementé, donc les marges de manœuvre sont quand même assez limitées.
Ce qu'on sait déjà sur la mise en œuvre des ZFE, les zones à faible émission, donc à partir de janvier 2025 sur Rennes Métropole, vous l'avez dit, c'est que le périmètre il s'étendra à l'intérieur de la rocade, sans impacter, il faut le dire, les quartiers résidentiels de Cesson-Sévigné, ouais, à l'est de la métropole, et avec un accès au parc relais qui sera préservé. Est-ce qu'on peut imaginer des dérogations, je pense à certains professionnels comme les aides à domicile par exemple, qui sont parfois avec leur véhicule et qui ont peut-être pas des vignettes de niveau 1.
Ça fait clairement partie des éléments qui sont ouverts dans la concertation avec les habitants. Donc d'où l'intérêt aussi d'y participer jusqu'en janvier et puis même après via le jury citoyen notamment. C'est-à-dire que nous, ce qu'on va devoir faire, c'est de définir un cadre général et ensuite évidemment on sera obligé de regarder un certain nombre d'exceptions, avec l'idée que au niveau des exceptions on reste aussi sur quelque chose qui puisse être généraliste pour faire en sorte que ce soit le plus lisible possible, parce que sinon on va développer un système extrêmement compliqué dans lequel personne s'y retrouvera. On a d'autres territoires qui ont mis en place, et moi c'est plutôt quelque chose que j'aime bien, une dérogation générale où par exemple 50 fois par an vous avez le droit de rentrer dans la ZFE, quelles que soient les vignettes que vous avez. Ça permet par exemple aux résidents du secteur qui sont dans la ZFE de pouvoir aller faire leurs courses une fois par semaine par exemple, ou à des extérieurs de pouvoir se rendre aussi à l'intérieur de la zone sans utiliser les transports en commun de temps en temps. Idem pour les artisans, voilà. Donc tous ces sujets-là, ils sont ouverts aujourd'hui. On est en lien évidemment avec les acteurs économiques aussi, et en particulier les fédérations d'artisans, pour voir aussi de leur côté ce qui pourrait être acceptable en termes de dérogation. Donc voilà, tous ces sujets-là, ils sont ouverts. En fait, il y a un cap qui est donné à 2030. On sait qu'on a des obligations et c'est bénéfique pour l'ensemble de la population à améliorer la qualité de l'air. Et maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'on y arrive sans, encore une fois, que ça gêne trop le quotidien et des entreprises et des habitants.
Améliorer la qualité de l'air sans exclure, c'est l'objectif pas facile à tenir qui est affiché, ouais, sur le site de la Fabrique Citoyenne. Et la question un peu obsédante qui revient sur ce sujet, c'est donc comment on accompagne les ménages aux faibles ressources qui ne choisissent pas d'avoir un véhicule classé 3, 4 ou 5 par plaisir. Peut-être dire que l'idée, c'est pas non plus forcément de passer à l'électrique. Tourner vers des véhicules.
Alors déjà, ce qu'il faut quand même bien avoir en tête, c'est que les ménages les plus modestes sur notre territoire, ils sont pour l'essentiel dans le cœur de métropole. Hein, parce que c'est dans le cœur de métropole qu'il y a le plus de logements sociaux et qu'il y a le plus de personnes pauvres. Voilà, donc il faut quand même se le redire. C'est une spécificité de notre territoire par rapport à d'autres aussi. Que par ailleurs, quand on regarde les populations les plus pauvres sur la métropole, en fait, elles ont un taux d'équipement voiture qui est extrêmement faible. C'est-à-dire qu'en fait, la plupart de ces ménages-là n'ont pas de voiture et sont des utilisateurs soit du transport en commun, soit d'autres modes, tout simplement parce qu'ils n'ont déjà pas les moyens d'avoir une voiture. Donc quelque part, la question de se séparer de leur voiture pour aller vers une électrique, elle se pose même pas pour eux de toute façon. Voilà. Et ensuite, nous, ce qu'on regarde, c'est la composition du parc automobile tel qu'il est aujourd'hui. Ce qu'on voit, c'est que sur la métropole de Rennes, on a plutôt un parc automobile qui est plus récent que ce qu'on peut constater sur d'autres territoires de France. Aussi parce qu'on a des populations qui, globalement, sont un peu plus riches qu'ailleurs en France. Donc on a un parc automobile qui est plus récent. Et si on tire l'évolution du parc jusqu'à 2030, on voit qu'à 2030, jusqu'aux vignettes critères 3, on ne parle plus que de quelques milliers de véhicules sur la métropole. De fait, nous, ce qu'on se dit, c'est que à la création de la ZFE, on se laisserait un temps. Assez vite, on pourrait être sur une exclusion des vignettes 5 et 4. Et la question, c'est à quel moment est-ce qu'on exclut les critères 3. Mais on voit que si on le fait sur un horizon qui est celui de 2030, à une ou deux années près, finalement, on impactera assez peu la population. Donc c'est un peu ça l'intention qu'on a aujourd'hui. Mais encore une fois, c'est des éléments qu'on veut consolider après la phase de consultation.
Donc pour les vignettes critères 3, 4 et 5, juste ajouter que ça correspond à des véhicules qui ont entre 19 et 24 ans d'ancienneté selon le type de carburant. Et j'ajoute à ce chiffre là de Santé publique France que vous avez déjà évoqué, mais les 40 000 décès par an prématurés qui sont donc liés à l'exposition aux particules fines, mais un chiffre auquel s'ajoute 7 000 décès prématurés liés aux émissions de dioxyde d'azote. On a un peu parlé de transport en commun. Déjà peut-être dire un mot sur le non-recours à la tarification solidaire qui, je trouve, vient vraiment en écho à ce sujet des zones à faible émission. C'est peut-être l'un des combats les plus importants pour avoir un report des usagers de la voiture vers les transports en commun.
On a travaillé ces dernières années là-dessus. On estime qu'il y a à peu près 110 000 personnes qui peuvent bénéficier des tarifs réduits sous conditions de revenus. Aujourd'hui, on était à 90 000 personnes qui l'avaient sollicité. Donc on a un non-recours de l'ordre de 20 à 30 000 personnes qu'on a cherché à comprendre. En fait, dans l'essentiel des cas, ce sont des personnes qui ne vont pas être utilisateurs du transport en commun pour des questions d'offres ou parce que en fait ça correspond pas à leurs besoins. Donc au final, on a quand même un non-recours qui est assez limité. Mais ceci dit, on continue à travailler en lien avec l'action sociale notamment, et c'est aussi pour ça qu'on a changé le nom des tarifications solidaires, qu'aujourd'hui on parle de tarifs réduits pour rendre ces éléments plus lisibles. On fait beaucoup d'allées vers aussi de plus en plus justement pour faire connaître ces dispositifs, mais c'est un travail évidemment qui n'est jamais terminé.
Une dernière question qui est un peu inévitable pour le vice-président au transport que vous êtes pour Rennes Métropole. On parle transport en commun, la ligne B du métro elle est à l'arrêt suite à un incendie depuis le 18 novembre. Ça affecte à la fois évidemment les usagers mais aussi les chauffeurs de bus sur qui se reportent un peu les déplacements en ville et dans la métropole. La remise en service, elle est prévue pas avant le 18 décembre. Est-ce qu'on a des précisions puisque ça approche, c'est la semaine prochaine?
Ouais, pas avant le 18 décembre, sachant que c'est, on l'avait dit, c'est un calendrier qui est jamais complètement consolidé parce qu'il y a des éléments qui dépendent effectivement de nous et en l'occurrence de Keolis, qui est l'entreprise qui fait tourner le métro. Mais il y a aussi des éléments qui vont dépendre des services de l'État, qui sont ceux qui nous autorisent à rouvrir ou pas le métro. Donc c'est pour ça que ce calendrier, il est pas avant le 18 et il peut y avoir 2-3 jours de latence dans ce calendrier-là, parce qu'encore une fois, il y a des éléments qui ne dépendent pas de nous. Pour tout vous dire, une semaine avant que ce transformateur brûle, on était en train de se poser la question de comment est-ce qu'on allait communiquer les excellents chiffres du réseau Star, parce que c'était quand même ça la réalité il y a encore quelques semaines de ça, c'est qu'un an après l'ouverture du métro, on a un réseau de transport en commun qui a fait plus 20% de fréquentation. On dépassait depuis la rentrée régulièrement les 450 000 voyages par an, alors qu'on était plutôt autour de 360 000 il y a encore un an. On a une baisse de 15% de la circulation dans l'intra-rocade. On a des chiffres qui étaient excellents et en avance par rapport à nos prévisions. Donc c'est une technologie, le métro automatique, quand elle fonctionne, c'est hyper efficace. Voilà, donc là, toute notre énergie, elle est évidemment mobilisée pour faire en sorte que cette ligne B, elle redémarre le plus vite possible, parce que c'est aujourd'hui un maillon essentiel de nos dispositifs de transport en commun.
Donc il ne reste plus qu'à prendre son mal en patience, c'est d'ici ça, la semaine prochaine. Mathieu Theurier, vous êtes donc conseiller municipal et métropolitain avec deux casquettes, les finances pour la ville, les transports à la métropole. On a essayer de mieux comprendre ce que sont ces ZFE, les zones à faible émission, un sujet sur lequel une consultation est ouverte jusqu'à fin janvier. Pour plus d'infos, il y a le site fabriquecitoyenne.fr avec l'ensemble des dates pour découvrir l'exposition itinérante sur le territoire. Merci beaucoup.
Merci à vous. Imagine if I had to give you my soul. Controlling them, no.
Petroleum par Yard Act sur Canal B. C'est une nouveauté musicale qui a été repérée par notre programmateur musical Yann, qui est au fond de son lit en ce moment. Alors on lui souhaite un bon rétablissement. On peut quand même dire que ce single que vous venez d'entendre, il est sorti le 30 novembre chez Island Records. Et c'est un avant-goût du prochain album du groupe Yard Act, Where My Utopia. C'est le nom du disque qui est attendu pour mars 2024. Yard Act, qui est un groupe qui nous vient de Leeds, au Royaume-Uni, au passage. Vous écoutez Canal B sur le 94.0, peut-être sur canalb.fr, et vous êtes dans l'arène. C'est l'émission d'information locale qui se poursuit avec un reportage. Alors, peut-être que vous vous en rappelez, au printemps 2022, j'étais partie à la rencontre de Chris Ames. Il a la soixantaine, est américain, poète, et il vit depuis le printemps 2020 sous le pont Laennec à Rennes. Après une année 2022 riche en projets culturels, je suis allée prendre de ses nouvelles alors qu'il s'apprête à quitter ce qu'il considère comme un domicile fixe mais en extérieur et qu'il navigue toujours tout au long de l'année entre voyages lointains, écriture et une vie sous tente ici à Rennes. Reportage.
Salut Chris.
Hi. Comment on va?
Ouais. Ça souffle ici.
Je m'appelle Christian Ames. J'ai 63 ans, né le 14 juillet de 60. Et depuis toujours, mon père m'a dit que j'étais un fils de la Bastille. C'est pour ça que je me suis intéressé en France. Et je suis là en France 33 ans maintenant. Et bon, ici à Rennes, ça fait 4 ans.
C'est mieux qu'on se vouvoie ou qu'on se tutoie?
Tu.
Tu. Ok.
Tu-moi.
Alors, tu es arrivé pendant le confinement?
Ah, juste avant le confinement.
Est-ce qu'on peut décrire aux auditeurs qui ne sont pas avec nous où est-ce qu'on est en train de se parler, à quoi ça ressemble autour de nous?
Well, nous sommes sous le pont de Laennec, au bord de la Vilaine, à Rennes. Et autour de nous, bon, c'est sous le pont, mais j'ai fait la peinture comme un petit souk à Marrakech, avec des mosaïques de miroir qui dit Allah Akbar par là, avec un petit Jésus orthodoxe qui pend sur le Allah Akbar. Ici, il y a derrière moi, c'est en chinois, la maison, avec ma famille, bon, divorcé, mon ex, avec mes deux enfants. Et devant, il y a le striptease club, qui est devenu une discothèque. Toutes les filles sont fuies. Et j'ai fait des murailles des animaux rupestres américains pour ne pas avoir mal du pays.
Et une tente à côté de nous? Puisque
ouais,
tu vis ici.
Une tente, mais j'ai écrit dessus parce que pendant l'été, pour les squatters, les petites règles pour ne pas dégueulasser l'endroit.
On s'était déjà rencontré au printemps 2022, qui a été une année assez riche, puisque tu as publié un livre, un recueil poétique. Tu as été sur la scène du TNB avec le spectacle « Rance n'est pas un fleuve ». Tu étais aussi au Festival des étonnants voyageurs, donc c'était une année riche.
Oui, 2022, c'était très riche. Et bon, je voulais porter des fruits de tout ça. Mais il semblait qu'après quelques mois, et je suis parti en vacances l'hiver dernier en Arabie Saoudite, alors j'ai démissionné de la troupe de théâtre. Et les éditeurs que j'ai souhaité travailler avec mes autres écrits, sont disparus aussi. Et bon, j'aimerais bien en ce moment retrouver des éditeurs parce que j'ai le bouquin, un roman qui j'ai gagné un prix aux États-Unis, An American SDF à Paris, en français, An American Homeless in Paris, où j'ai vécu dans un terrain de golf pendant que j'étais professeur d'anglais. Et il y a des petites leçons de bouddhisme dedans, il y a plein d'humeurs. De l'amour aussi, parce qu'à l'époque, j'avais une jolie copine. Et j'ai fait des leçons de comment vivre à Paris, comme je vis ici.
Hop.
long time no see. Here.
Il a un prénom?
Ray Manzarek, le keyboardiste de Doors.
Ah.
Parce qu'au début c'était Jim Morrison, mais Jim Morrison a disparu.
Dernièrement, il y a un documentaire un peu long format qui, je crois, est encore à voir en ligne sur la plateforme Cube, K-U-B, où tu te racontes face à la caméra, où on découvre en fin de documentaire, ça a été tourné il y a un petit moment maintenant, mais où on découvre que tu songes peut-être à quitter cet endroit-là, que tu as fait une demande de logement. Oui. Est-ce que ça a avancé, ces choses-là?
Oui, ça avance et je suis au point de partir, je crois. Et j'ai parlé avec Damian, mon pote polonais, parce que dès que je pars, je veux qu'il prenne l'endroit. Je veux pas que n'importe qui vienne et détruit l'endroit ici.
Donc on se voit peut-être dans les derniers moments où tu vis sous le pont Laennec.
Oui. Mais quand même, j'ai dit à Damian que je garde cet endroit pour mon dacha, mon weekend house, pour venir faire les barbecues. Et les bonnes cuisines au feu de bois. Parce que c'est joli ici. J'ai une jolie vue de la Vilaine. J'ai des amis parmi les animaux. Et je suis tellement habitué d'être là que je crois que ça sera difficile d'être entre les murs.
Et alors pourquoi ce choix?
Ah, j'ai du rhumatisme. Je suis de plus en plus décrépit. Et je sais que je ne peux pas continuer toutes les années comme ça. Je dois être plus cool, et trouver un endroit et travailler avec l'électricité, pas avec mon lampe frontale, et être plus normal que je suis maintenant.
Est-ce que tu continues à écrire?
Oui. Maintenant, j'ai le livre de Arabie Saoudite et Oman que je termine. Monsieur Goater, qui a publié Sous le pont de Laennec, ne veut pas le prendre parce que ça ne parle pas de Bretagne. Alors, je veux trouver un autre éditeur en France, mais c'est un bouquin en bilingue. Ça peut être anglais-français ensemble, face à face comme ça, pour l'apprentissage d'anglais.
C'est un récit de voyage?
Oui, des poésies et des contes. Arabie. Ça me surprit le pays-là, parce que tout le monde a des idées sur les pays arabes et musulmans. Et je le trouvais très intéressant et très accueillant. Alors je voulais partager ça avec le monde occidental pour qu'on ne divise plus. Je sais que dans ces jours-là, c'est un peu difficile, il faut prendre un côté. Mais non, je ne prends pas un côté.
Est-ce que c'est possible d'en lire un extrait?
Pour rester bercé dans la fantaisie. Je ne pourrais jamais faire cela, mais deux fois je l'ai vu voler sur la route Médine, Aladdin sur son tapis volant, le vent dans ses cheveux sifflant, à ses oreilles, d'un après-midi si lumineux et si clair. Comment ne pas croire à la magie? Son maître agissait, changeant de vitesse au fur et à mesure qu'il roulait. L'arrière de son camion pesait avec un poids compressé et parfait, la bête, le génie vraiment, attendant patiemment que l'ordre soit donné pour se relever. Est-il m'ont dépassé deux fois, comme si je n'en aurais pas cru mes yeux si ça n'avait été qu'une seule fois.
Ton parcours et ton mode de vie qui est assez atypique, on peut dire qu'il y a un sans-abrisme choisi. Tu l'as raconté auprès de plusieurs journalistes à travers un documentaire qu'on a évoqué et puis aussi très récemment une vidéo qui est plus courte auprès du média Brut. Comment est-ce que tu perçois le fait que ça intéresse les médias?
Oui, ça intéresse les médias et j'ai lu beaucoup de commentaires. Et beaucoup de commentaires ne comprennent pas exactement que je suis. Parce que, oui, c'est un mode de vie choisi, mais c'était quand même une chute. Mais c'était la chute le moins difficile que je pourrais faire. Parce que avant de me marier en 1900, 94, j'avais voyagé aussi une décennie. Donc je savais comment vivre dehors. Donc ici, ce n'est pas une question d'être SDF. I mean, oui, les gens me prennent comme je suis SDF, mais j'étais toujours ici et j'ai fait un petit studio ici. Et pour moi, je ne suis pas sans domicile fixe. J'ai un domicile.
Mais en extérieur.
En extérieur. Je ne picole pas assez. I mean, j'aime bien le vin. Je bois de la bière. Mais je ne picole pas. Et je ne fume pas. Je fumais des joints de temps en temps, mais j'arrête maintenant. Je veux ma santé. Et quand même, je n'étais jamais tombé dans l'abysse de la tristesse et le no exit.
Sans issue, sans échappe.
Comme si je ne peux pas sortir de ça. Je sais que je peux sortir, je suis capable d'aller demain et travailler dans une école de langue, si je veux. Mais pour moi, les années qui restent dans ma vie, je veux être un bon écrivain publié et reconnu, parce que je sais que j'ai de la qualité comme écrivain. C'est vrai, j'ai gagné des prix en Amérique, plusieurs prix. Mais ici en France, je suis traité comme un ovni. Mais je ne suis pas un ovni. Beaucoup de monde me connaissent mon nom. Ils savent où je suis.
Ce qui surprend, c'est qu'on est dans une société très matérialiste et que tu fais le choix de renoncer au confort pour la liberté donc d'écrire.
Ouais.
C'est ça qui surprend.
Peut-être en février, mars, j'irai dans le Sahara. Ça dépend de la situation entre les Arabes et l'Occident avec cette guerre qui passe. Je veux connaître le Hoggar en Algérie pour 2 mois et faire des randonnées avec les hommes bleus et peut-être écrire quelque chose dessus, ça aussi. Et si ça, c'est pas possible, j'irai à Patagonie encore pour 2 mois. Et de ne pas être matérialiste, ça veut dire que je peux laisser les choses ici. Et n'importe qui peut venir et prendre les affaires s'ils veulent. Et toujours, quand je reviens, il y a 1 ou 2 choses qui sont disparues. Mais ça ne me brise pas mon cœur. Si ça peut être utile à quelqu'un, vraiment, ok, ça va.
Peut-être sur l'écriture, dans quelles conditions est-ce que tu écris? Est-ce que c'est ici? Est-ce que c'est ailleurs en ville? Est-ce que c'est à certains moments de la journée?
Au champ libre, mais je passe beaucoup de temps au champ libre, surtout quand il pleut. Et j'écris là-bas. Des fois, j'écris directement sur l'ordinateur. Dans les bus, non. Dans les bus, plutôt, je lis les journaux sur mon portable, comme tout le monde. Mais pour dire la vérité, quand est-ce que j'ai écrit mon dernière poésie? Peut-être 3 semaines. Je travaille sur les anciens écrits pour préparer pour les publications.
Sur le fait d'être en extérieur, tu vois forcément passer les saisons. Comment est-ce que cette saison-là, qui d'un point de vue climatique n'est pas évidente, est-ce que tu la vis dans ton quotidien puisqu'elle t'impacte ici? Il y a, j'imagine, de l'eau à venir là, on sent le vent.
Oui, j'ai pas une bâche cette année. Quelqu'un a piqué le bâche que j'avais ici pour le protéger. Et oui, quand ça tombe la nuit à 5 heures, oui, je passe beaucoup de temps au cinéma et aussi dans le foyer de TNB. J'ai le Wi-Fi là-bas et je peux bosser là-bas jusqu'à 8 heures, 9 heures du soir, 10 heures. So, je veux rester plutôt à l'extérieur en décembre, comme ça, et que revenir et dormir, you know, quand c'est le temps de dormir. Ok, j'ai trouvé hier 2 palettes. Il y a beaucoup moins de palettes maintenant, parce que les hivers précédents, je pouvais faire des feux de bois là, qui donnent de lumière, plein de lumière. Cette année, il y a beaucoup moins de palettes, je ne sais pas pourquoi, mais... Il faut laisser vos palettes dans les rues, les gens de Rennes. Ou même si vous avez une grande pick-up truck, amène-moi 20aine de palettes. Parce que chaque palette dure 2-3 jours de feu de bois. Et un feu de bois, c'est tellement joyeux.
Le message est passé.
Ok.
Et j'avais une dernière question. si tu avais des recommandations, tu dis que tu vas beaucoup au cinéma, peut-être que tu lis, est-ce que tu as des choses qui culturellement t'ont nourri ces derniers temps et que tu veux recommander aux auditeurs?
Wow. En ce moment, je lis Raymond Carver. C'est un écrivain américain qui écrit des nouvelles. J'ai lu aussi Sam Shepard. Il est acteur et il écrivait des pièces de théâtre. Il est mort depuis 2 ans, 3 ans. Mais un bon écrivain. Parce que oui, je passe le temps à l'Institut franco-américain, près de République aussi, pour les bouquins en anglais.
Okay.
Mais sinon, les films, j'ai emmené mon fils à voir Napoléon. Même je sais que c'était trop hollywoodien avec la relation avec Joséphine. Et l'histoire, souvent, ça passait beaucoup de temps. Ouh, la Russie passait en 9 minutes, toute cette campagne de merde qu'il a fait d'aller à Moscou et de revenir. C'était trop vite dans le film. C'était un bon film si on ne connaissait rien du tout de Napoléon. Mais quand même, il pouvait faire ça mieux.
Est-ce que tu souhaites ajouter des choses? Est-ce qu'il y a des questions importantes que je n'ai pas posées?
Yes, where are the editors for my roman? Où sont les éditeurs, les éditions qui peuvent faire plein de fric avec mes romans? Parce que les romans font des fric. Et la publicité, parce que je suis là pour être immortel.
C'est entendu.
Ok.
Ben, merci beaucoup, Chris.
Je vais te dire aussi.
Le Secours Populaire, c'est où?
Ouais, c'est par le Pré Garel de Lyon.
Ah ouais, ok.
C'était mon choix musical du jour, le morceau Bouquet Final de Yell, un titre à retrouver sur l'album Complètement Fou qui est sorti en 2014 sur le label Because Music. Et c'était à l'époque le troisième des quatre disques de cet artiste briochine, dont le vrai prénom est Julie. Vous êtes en train d'écouter La Reine sur Canal B, une émission qui a quitté les réseaux sociaux, ça fait un petit moment maintenant, mais qui chaque vendredi propose une newsletter, ça s'appelle le courrier de La Reine. Et dans ce courrier, eh bien, je mets en lumière un reportage, une interview, une info du jour que je vous adresse à vous, auditeurs, si vous êtes abonnés. Pour s'abonner, rien de plus simple, vous pouvez m'envoyer un email à l'adresse lucie@canalb.fr ou retrouver les informations pour vous inscrire en ligne sur notre site. Et on approche de la fin de l'émission d'information locale du jour qui se termine à chaque fois avec une recommandation, des conseils de choses à se mettre dans les oreilles, à voir, à lire ou à vivre près de chez soi. Aujourd'hui, on annonce une conférence qui est organisée par le Bureau des Temps. Alors le Bureau des Temps, c'est ce service de la ville de Rennes et de Rennes Métropole créé il y a 20 ans et qui cherche à adapter les rythmes du territoire aux pratiques des habitants. Des conférences sont aussi régulièrement proposées au public pour parler toujours du temps, avec des sociologues, des philosophes, des économistes ou encore des urbanistes. Prochain rendez-vous pour une de ces conférences jeudi 14 décembre à 18h30 dans l'auditorium des Champs Libres ici à Rennes. Temps, utopie et transition, premier volet, il est temps d'écrire demain. C'est le nom de la rencontre. Alors nous savons qu'il est nécessaire d'aller vers plus de sobriété pour répondre aux enjeux des transitions écologiques mais aussi économiques et sociales auxquelles nous faisons face. Et si la clé, eh bien, c'était le temps de penser, le temps d'imaginer et le temps de changer. Et s'il fallait oser aller même un peu plus loin et considérer que la sobriété passe par la réduction du temps de travail. C'est en tout cas ce qu'a fait Adrien Klent, auteur et invité de cette conférence. À l'heure des débats sur la semaine de 4 jours, il a lui imaginé la journée de 3 heures de travail dans le livre « Paresse pour tous » qui est sorti en 2021, puis dans une suite intitulée « La vie est à nous » parue cette année en 2023. Cette conférence, on dit tout de suite, elle sera suivie d'un second volet sur le même thème au printemps 2024. Pour plus d'infos sur ces rendez-vous, il y a toujours le site métropole.rennes.fr. La Reine, c'est terminé. Une émission d'information locale à écouter du lundi au vendredi à 17h sur Canal B et en rediffusion à chaque fois le lendemain à 8h. Pour suivre l'émission, pensez à vous abonner à la newsletter Le Courrier de la Reine. Le détail ainsi que les podcasts sont à retrouver en ligne sur canalb.fr. Je vous dis à bientôt.